La bonne nouvelle de Jean au chapitre 16, à partir du verset 1. Je lirai au début des versets 1 à 4 et ensuite des versets 29 à 33. Voilà, prions ensemble. Seigneur Jésus Christ, nous savons que tu reviens bientôt. Comme tu es venu une première fois, tu vas revenir cette fois-ci pour enlever ton Église de cette terre. C'est une promesse que tu nous as faite. Et en attendant que cet événement glorieux se réalise, nous avons besoin de nourrir notre âme de ta parole afin d'être forts en toi pour tenir bon quoi qu'il puisse se passer sur cette terre. Notre but est de t'attendre et d'être prêt pour ce jour glorieux. Fortifie-nous encore ce soir par ta parole, Jésus-Christ, et que toute gloire encore te soit manifestée. Amen. Voilà, lisons ensemble. Jean chapitre 16, verset 1. C'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses apôtres. Il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement. Parce que j'étais avec vous. Et là, je passe au verset 29. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà, je m'arrête là. Il dit au verset 16, à partir du verset 1, Jésus-Christ, « Je vous ai dit ces choses. » Précédemment, si on lit le chapitre 15, à partir du verset 18, on verra que Jésus mettait ses disciples en garde vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, nous les hommes. Il leur disait notamment que le monde ne le connaît pas, que le monde éprouve envers lui de la haine et que par voie de conséquence, vis-à-vis de ceux qui lui appartiennent, ses disciples, ses serviteurs, ses enfants, ses rachetés, ses élus, il en sera de même. C'est-à-dire que le monde aussi ne nous aime pas. Vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez faire simplement une expérience si vous allez quelque part dans une administration, par exemple, et que là, vous vous mettez à parler librement de Jésus-Christ, vous verrez que vous ne serez pas reçu favorablement. Certainement, on vous demandera de vous taire, on voudra vous empêcher de vous exprimer, parce que le monde n'aime pas le Christ Jésus. Et quand bien même on voit le monde fêter, entre guillemets, donc des fêtes qui ont trait à la chrétienté, mais dans la pratique, nous savons qu'il y a beaucoup de traditions et de religiosité. Parce que dans le fond, le monde ne vit pas la parole de Dieu. Le monde, effectivement, ne peut aimer que ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, effectivement, malheureusement, vient de celui qui influence le monde. Et que Jésus lui-même nomme le prince du monde. C'est-à-dire le diable. Mais Jésus leur dit, justement, que toutes ces mises en garde, c'est pour qu'ils aient la paix en lui, parce qu'il savait qu'il allait s'en aller, retourner vers le Père, là où il était précédemment de toute éternité. Il dit donc que « Je vous ai dit ces choses » au verset 32, « afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et le titre de mon message, c'est « Tous nos adversaires ont été vaincus. » Tous nos adversaires ont été vaincus. Il n'y en a pas un qui ait été oublié. Tous ont été vaincus. Et tous ont été vaincus dans le tout accompli de Dieu. Et le tout accompli de Dieu s'est passé à la croix de Golgotha. Jésus, offrant sa vie volontairement, il était crucifié. Et voilà, comme il est dit en Jean chapitre 19, les versets 28 à 30, « afin que s'accomplisse ce qui avait déjà été annoncé par les Écritures. » Alors là, il est crucifié et à un moment donné, il dit « j'ai soif ». Et on va lui tendre donc une branche d'hysope. On mettra donc une éponge sur une branche d'hysope avec du vinaigre. Et là, Jésus, il va pencher sa tête sur le côté. Et avant de rendre l'esprit, il va dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Jésus dit bien « tout ». Il ne dit pas « une partie » ou de manière partielle, j'ai accompli ce que je devais accomplir. Il dit tout, tout est accompli. Dans le tout accompli de Dieu, tous nos adversaires ont été vaincus. Tous nos adversaires ont été donc vaincus. Un jour, Jésus, parlant avec des Juifs dans le temple de Jérusalem, alors, il leur faisait une remarque, il disait, parce que, bon, eh bien, effectivement, ils n'acceptaient pas que Jésus puisse faire des miracles extraordinaires, qu'il puisse dire des choses merveilleuses et que le monde puisse aller vers lui, que le peuple puisse venir à Jésus chercher la délivrance parce qu'il délivrait et il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et à un moment donné, Jésus leur dit « détruisez ce temple ». Et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple, naturellement, de son corps. Il parlait du temple de son corps parce qu'il allait être mis à mort par sacrifice. Il fallait qu'il soit mis à mort par sacrifice sur cette croix pour que nos adversaires soient vaincus, pour que nos ennemis soient vaincus. Il fallait qu'il passe par là. Mais eux ne comprenant pas, alors ils disent, mais il a fallu 46 ans parce qu'il se basait sur le temple de Jérusalem. 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis, si on le détruit en 3 jours, il sera rebâti, parce qu'il ne comprenait pas que Jésus était en train de parler de sa personne, de son corps, de chair, de sang, qui allait être offert en sacrifice pour nous. Car sans effusion de sang, sans sacrifice, il n'y a pas donc de pardon pour les péchés. Un jour, l'apôtre Pierre a été appelé par un centenier romain qui s'appelait Corneille. Corneille lui-même avait eu une vision céleste, parce que c'est un homme qui avait un cœur pour Dieu. Il n'était pas juif, il était romain, mais pourtant il craignait Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et il faisait beaucoup d'aumônes. On voit là que cet homme adorait Dieu. Il avait un cœur pour Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère et vrai. Alors il a une vision et dans cette vision, il lui dit « Fais appeler celui qui s'appelle Corneille et il t'exposera de manière plus précise ce qui concerne le royaume de Dieu. » Et là, Pierre, arrivant chez Corneille, il fait ce discours en Actes 10, 38-43. Il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Avant que Jésus ne donne sa vie volontairement à la croix, et que ce temple de son corps ait été effectivement détruit, mais dans la réalité, rien dans son corps n'a été détruit. Mais c'était une manière de dire qu'il resterait 3 jours dans le tombeau avant de sortir. Eh bien, les hommes étaient sous l'empire du diable, c'est-à-dire sous la domination absolue du diable. Personne n'avait pu libérer l'homme de cette situation désastreuse. Et c'est Jésus-Christ qui est venu, loin du Père, loin du Saint-Esprit. Il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Et Pierre témoigne de cela. Il dit, nous sommes témoins. Il parle de lui-même, Pierre, et des autres apôtres qui ont accompagné Jésus pendant son ministère terrestre, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois et il dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et c'est donc de cela dont il parlait lorsqu'il leur disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et Pierre en témoigne parce que Jésus leur est apparu. Et il dit, et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il va apparaître, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, dont l'apôtre Pierre, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut crucifié. Et ainsi, il nous a ordonné, c'est-à-dire non seulement à lui, Pierre, apôtre et les autres, parce qu'ils avaient reçu ce mandat de Dieu pour évangéliser le monde, pour apporter la bonne nouvelle du salut en Christ, mais à nous aussi, qui sommes de la postérité de Christ, nous qui sommes l'Église de Jésus. Il nous a ordonné de prêcher au monde entier et d'attester que c'est lui, Jésus-Christ, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, juge des vivants et des morts. Et c'est aussi lui qui va juger nos adversaires, et notamment le principal qui est cet ange déchu, avec tous les autres esprits impurs et ténébreux qui nous font la guerre. Alors ce soir, c'est une parole d'encouragement, parce que vous savez que lorsque nous sommes éprouvés, nous avons mal quelque part. Ça dépend de l'épreuve par laquelle nous passons. Et ce n'est pas toujours évident. Et l'épreuve est là pour nous encourager, nous fortifier. Mais malheureusement, l'épreuve peut nous décourager. Et lorsque nous sommes éprouvés, il nous arrive aussi des fois de perdre en termes de confiance, la confiance que nous avons placée en Dieu. Et des fois, nous ne comprenons pas pourquoi nous passons par un chemin donné. Alors Dieu veut nous rappeler que le monde des ténèbres a été dépouillé de sa puissance et de sa prérogative qu'il avait sur la mort. C'est Colossiens 2, 13, 17 qui nous le dit. Il nous est dit qu'avant que Jésus ne vienne, nous étions morts par nos offenses. Les offenses du péché et l'incirconcision de notre chair, d'autant plus que nous ne faisions pas partie du peuple d'Israël. Il dit, nous étions morts. Effectivement, c'est la mort qui régnait dans nos vies. Nous étions morts par nos offenses. Mais Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Christ nous a rendus à la vie. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et c'est cette parole qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est-à-dire est passée au-dessus de tous les péchés, pour effacer ces péchés, pour les couvrir, pour que Dieu ne puisse plus nous voir dans la boue du péché, mais qu'il puisse nous voir justifiés par son Fils, lavés et sanctifiés par Jésus-Christ, par son sang versé à la croix. Et Jésus à la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cet acte, il l'a cloué à la croix. Et le verset 15 nous dit, et cela est bon pour nous de nous en rappeler, Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les dominations et les autorités, c'est qui? C'est le diable et toute son armée d'anges déchus qui nous font la guerre. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parce que le jour où Jésus était en train de dire que tout est accompli et qu'il a baissé la tête en rendant l'esprit, beaucoup ont cru que c'était sa défaite. Beaucoup ont cru qu'il avait été vaincu. Et c'est pour ça que un des brigands crucifié avec lui, méprisant, lui disait « Mais tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Et puis d'autres personnes dans le public, mais poussées par le diable, lui disaient « Mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix, prouve-le, sors de cette croix !» Mais non, il n'est pas descendu de la croix. Et c'est ce qui trompe le monde. Parce que la manière dont le monde aborde les choses, les circonstances et les événements n'est pas du tout celle par lesquelles Dieu aborde les choses. Et c'est pour ça que des fois on a l'impression que nous sommes vaincus et que Dieu n'agit pas. Et là on pourrait dire mais Dieu s'est laissé faire et Dieu a été vaincu. Il a baissé la tête et il a rendu l'esprit. Et beaucoup ont cru qu'il était vaincu. Et le troisième jour, ce qu'il avait annoncé s'est réalisé. Il est sorti victorieux du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la vision du monde n'est pas la vision de Dieu. Et c'est pour cela que nous aussi, face à l'adversité, la manière quelquefois dont les gens voudraient que nous puissions agir et qui n'est pas la manière du monde, peut laisser croire que nous sommes vaincus. Mais c'est faux. Par exemple, Dieu nous dit de ne pas répondre au mal par le mal. Et notre voisin pourrait nous dire, mais écoute, dans cette affaire, moi à ta place, j'aurais pris mon fusil et je serais allé leur faire entendre raison. Ça, c'est le monde. Et notre voisin nous voit en train de nous laisser faire. Parce que Dieu nous dit, tu ne répondras pas au mal par le mal. Mais nous allons faire quoi? Nous tenir dans la prière, dans la présence de Dieu, pour combattre dans la prière. Parce que la manière dont fait le monde n'est pas notre manière d'agir. Et là où le monde pense que nous sommes vaincus, Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde est vaincu et tous les adversaires qui sont dans le monde contre nous sont vaincus. Mais malheureusement, dans l'épreuve, on pourrait l'oublier. On pourrait oublier que ce monde a déjà été vaincu par Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus a accompli ce sacrifice glorieux qui nous permet d'être là ce soir, c'était la fin de son ministère terrestre. Il allait partir, retourner vers le Père. Mais il nous a laissé une mission. Parce que c'est nous, Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. C'est par nous que le monde doit voir la gloire de Jésus. Éphésiens 3, 8, 13 nous dit, Paul, parlant de son ministère, il parle de la grâce que Dieu lui a fait d'être apôtre, dirigé, orienté principalement vers les païens, il dit « J'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Et regardez ce qu'il dit. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Par qui? Par l'Église. Et j'ai lu pour vous dans Colossiens 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et là, il nous est dit, il faut que les dominations et les autorités, quelles sont ces dominations et ces autorités? Celles qui ont été dépouillées par Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ces dominations et ces autorités qui sont dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. C'est qui l'Église? C'est nous. C'est nous, c'est vous et moi. connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui que nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dieu donc cherche à ce que par les chrétiens, les autorités et les puissances dans les lieux célestes qui ont été dépouillés puissent voir la gloire de Dieu. Parce que ce sont des ennemis qui ont été vaincus. Et devant ces ennemis, nous devons vaincre. Parce que Jésus a dit, j'ai vaincu. Mais il n'a pas vaincu pour lui-même. C'était pour nous. Pour que nous soyons vainqueurs. Et que ces dominations et ces puissances dans les lieux célestes qui ont déjà été dépouillées en Jésus-Christ soient aussi dépouillées dans nos vies et dans la vie des hommes et des femmes. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela n'est possible que si nous sommes, selon l'exhortation que Christ a partagée ce jour-là avec cette femme samaritaine, en lui disant, le temps est venu, l'heure est venue, où les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, ce sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et cela pour nous est possible que si nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Cela n'est possible pour nous que si nous abordons les épreuves en esprit et en vérité. Si nous nous laissons assaillir par les désirs de la chair, nous pouvons mal supporter les épreuves par lesquelles nous passons. Et nous pouvons chercher des fois à combattre la chair par la chair. Or, nous savons que Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre, justement, les autorités, les dominations dans les lieux célestes, contre le prince de la puissance de l'air. Et cela n'est possible que si nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Dieu nous le rappelle ce soir. « Je ne parlerai plus guère avec vous », leur disait Jésus, parce qu'il allait partir. Et il dit « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Ce monde-là, Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Et il dit « Le prince de ce monde vient ». Si Jésus a vaincu le monde et que le diable est le prince de ce monde, le diable a été vaincu, puisqu'il est le prince de ce monde. Et que Jésus a vaincu le monde. Il a donc été vaincu lui aussi. Et nous, nous devons marcher par la foi et persévérer par la foi. Ne pas être comme il est dit en 2 Corinthiens 4, 4. Il est dit qu'il y a ceux qui sont incrédules parce que le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? Le diable. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle aveugle beaucoup de personnes et nous, nous sommes là pour aider ces personnes par l'action du Saint-Esprit dans nos vies à retrouver la vie spirituelle. Pour que ces gens comprennent, ces hommes, ces femmes comprennent que Dieu a vaincu le monde et que s'ils ont besoin de sortir de leur marasme psychologique, spirituel, leurs problèmes particuliers, quels qu'ils soient, ils doivent venir à Jésus-Christ parce que nous, Jésus nous a éclairés. Et c'est la même chose que nous devons faire à leur égard, les éclairer par la parole de Dieu, les éclairer par la prière, les éclairer par des exhortations, par des témoignages, que ce soit entre nous, que ce soit vis-à-vis du monde et qui ne connaît pas Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Parce que dans l'épreuve, lorsqu'on n'aborde pas les difficultés par l'Esprit de Dieu, les épreuves peuvent être pour nous des occasions de chute. On peut chuter lorsqu'on aborde les épreuves par la chair. J'avais un frère vraiment avec lequel Dieu m'avait lié. On a vécu pas mal de choses ensemble dans la présence de Dieu. On a beaucoup prié ensemble et on a eu beaucoup de révélations de Dieu sur beaucoup de choses. Et ce frère même avait reçu cette grâce de donner les dons spirituels, le don de prophétie. Dieu lui avait fait cette grâce. Et depuis des années, je n'avais plus de nouvelles de lui. J'ai cherché pendant un temps. Et puis récemment, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé sur Internet. Et malheureusement, il est parti dans le monde. Il n'est plus avec Jésus-Christ. Dieu m'avait déjà dit dans un premier temps où je priais pour lui, je disais, Seigneur, qu'est-il devenu? Où est-il? Que fait-il? Qu'est-il devenu? Et Dieu m'avait déjà dit, il m'a abandonné. Il n'est plus avec moi. Et je le cherchais. Et j'ai fini par le trouver. Et il est parti dans le monde. Il est devenu un artiste du monde. Et il a ses vidéos sur Internet, il fait de la musique du monde. Il n'est plus avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que son cœur s'est détourné de son Créateur et de son Roi. Et certainement, ces épreuves qu'il a abordées, non pas forcément toujours par l'Esprit de Dieu, l'a poussé à abandonner les voies de Dieu. Alors il a été vaincu. Pourtant, son Créateur a déjà vaincu pour lui, a dépouillé les autorités et les puissances. Jésus a vaincu le monde. Mais il s'est laissé vaincre et il est retourné à ce qu'il a vomi. Et des fois, j'essaie de lui envoyer des messages et je n'ai aucun retour. J'essaie de l'exhorter, de lui dire que c'est encore possible. Reviens à ton Seigneur, à ton Sauveur. Et je n'ai jamais eu de réponse de sa part. Mais c'est triste. C'est triste quand quelqu'un a connu Jésus et que la personne retourne dans le monde jetant l'opprobre sur le Christ, alors que Jésus a déjà vaincu pour nous. Oui, les épreuves sont difficiles des fois. Il faut s'accrocher à Christ. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'isoler dans l'épreuve. On doit demander de l'aide, ne pas rester seul dans les épreuves. Nous sommes une famille. Christ a formé un corps. Son Église, c'est un corps. Et ce corps-là, dans la vision de Jésus, celle qui n'est pas d'ailleurs toujours celle des chrétiens, et c'est bien triste ça aussi, mais Jésus, lui, ne voit qu'un corps, qu'une église. Quand il viendra chercher une église. Il ne viendra pas chercher telle ou telle communauté. Il viendra chercher tous les enfants de Dieu, de toutes les communautés chrétiennes qu'il adorait sincèrement en esprit et en vérité. Parce que lui, il ne voit qu'une église, qu'une épouse. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas une occasion de chute pour vous. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'un des apôtres de Dieu, l'apôtre Jacques, Hérode un jour en acte 12, 1, 5, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. C'était un des apôtres. Voilà comment cet apôtre va mourir, par l'épée, Jacques, frère de Jean. Et en plus, le roi Hérode, il va voir que cela était agréable aux Juifs, il va continuer et il va faire jeter aussi en prison l'apôtre Pierre. Et heureusement, en fonction des desseins que Dieu avait pour Pierre, Pierre ne trouvera pas la mort. Un ange de Dieu viendra pour le délivrer. Mais à côté, il y avait l'Église qui priait pour lui. L'Église priait pour Pierre. Et un ange de Dieu viendra délivrer Pierre. Mais l'apôtre Jacques, lui, il a été mis à mort par l'épée. Alors, est-ce que Jacques a été vaincu? Est-ce qu'il a été vaincu parce qu'il a été mis à mort par l'épée? Non. Et quelques personnes pourraient aborder cette épreuve en disant, regardez, il a été mis à mort par l'épée, on lui a peut-être coupé la tête, décapité. Où est leur Dieu? Mais il n'a pas été vaincu, Jacques. Car Dieu nous dit que même pas la mort, ni la mort, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 35-39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Comme pour l'apôtre Jacques, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Regardez la liste de ces exemples qui a été donnée. Mais pourtant, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ, car j'ai l'assurance que ni la mort qui a atteint l'apôtre Jacques, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La mort n'a pas pu vaincre Jacques. La mort n'a pas vaincu l'apôtre Jacques. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. Quelle que soit l'issue d'une épreuve, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Du moment où nous ne renions pas Jésus, du moment où nous restons avec lui, du moment où nous avons la foi jusqu'au bout, du moment où lors du dernier souffle, Jésus était encore notre sauveur et notre Seigneur, quelle que soit l'issue de l'adversité et du combat, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce que nous devons repasser dans notre cœur. Et ne pas regarder des fois aux conséquences de certaines situations qui paraissent désastreuses, comme pour l'apôtre Jacques. Quelle que soit l'issue, celui qui demeure en Christ est plus que vainqueur. Et cela, c'est pour l'éternité. Un homme de Dieu qui avait été choisi parmi sept autres, à l'époque où justement les apôtres s'occupaient un peu trop de ce que Dieu ne leur avait pas confié. Ils s'occupaient aussi de faire la distribution alimentaire pour les besoins donc des chrétiens, notamment des veuves. Et il y aura une dispute entre les hellénistes, entre les chrétiens de Jérusalem, et certains diront nos veuves on ne s'occupe pas correctement de nos veuves, ça va créer une dispute dans l'église. Et vous voyez ce qui se passe? Lorsque on n'est pas au poste qu'il faut, lorsqu'on ne fait pas l'œuvre que Dieu nous a confiée, selon l'appel qu'on a reçu, ça peut créer des problèmes dans l'église. C'est pourquoi chaque membre du corps de Christ doit être sûr d'être à sa place au service. Parce que si on n'est pas dans le bon service, ça peut créer des problèmes. Les apôtres étaient en train de s'occuper de la distribution alimentaire. Mais entre-temps, ce n'est pas ce à quoi le Christ les avait appelés. Et ça va créer des problèmes. Et heureusement qu'ils vont s'en rendre compte. Alors ils vont dire à l'Église, choisissez au milieu de vous sept hommes de qui on rend un bon témoignage et qui soient remplis de l'Esprit Saint, afin que nous puissions nous consacrer à la parole de Dieu, à l'annonce de la parole de Dieu. C'était là ce à quoi le Christ les avait appelés. C'étaient les apôtres. Et l'Église était en train d'être bâtie sur Christ, mais à travers l'œuvre que Christ avait confiée aux apôtres. Et ce qu'ils faisaient pendant un temps, ce n'était pas ce à quoi Christ les avait appelés. Et ça crée des soucis et des problèmes lorsqu'on n'est pas au bon poste au sein de l'Église. C'est pour ça que nous devons toujours prier pour avoir le discernement et que nous-mêmes nous soyons sages. Si je sais que je ne suis pas appelé à quelque chose et que ma participation à ce service sera plus source de problèmes, il faut que par sagesse et que par amour pour Dieu, par amour pour mon prochain, je sache dire que non, ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. et que j'aille vraiment vers le bon service. Et Dieu leur a donné cette intelligence, et c'est là qu'on va instituer les diacres qui vont spécialement s'occuper donc de cette distribution et de tout ce qui concernait donc les besoins matériels, le service dans l'église, voilà. Et eux, les apôtres, allaient pouvoir enfin justement se consacrer à la prière et à l'annonce de la parole de Dieu, ce à quoi Christ les avait appelés. Et de ces sept diacres, il y en avait un qui s'appelait Étienne. La Bible dit de lui qu'il était rempli de sagesse. Je le lis pour vous. Étienne, plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et puis là, il va rencontrer des membres de la synagogue dite des affranchis qui vont essayer donc de discuter avec lui. Mais face à la sagesse, à l'onction de Dieu qu'il avait, Étienne, ils n'arrivent pas à le contredire dans ses discours. Ils sont confus et cette confusion crée en eux la jalousie, la colère et l'envie. Alors ils vont chercher à le tuer et ils vont réussir effectivement à faire venir contre lui de faux témoins et finiront par le lapider. Voilà un homme de Dieu parmi les sept diacres qu'on avait choisis, rempli de la grâce, de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit et de la grâce de Jésus, et il finit par être lapidé. Et si on regarde avec les yeux de la chair, on pourrait dire, mais voilà, il a été vaincu. Il a été vaincu. Où était son Dieu? Et pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? L'a-t-il laissé mourir de cette manière? Une mort atroce. Mais Étienne n'a pas été vaincu. Au contraire, c'est là où on voit que cet homme a abordé l'épreuve par l'Esprit de Dieu. Il a abordé l'épreuve parce qu'il était un adorateur en esprit et en vérité. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, il dit « Ne leur impute pas », s'adressant à Dieu, « Ne leur impute pas ce péché. Fais-leur grâce. Ne leur impute pas. Ne leur fais pas porter la peine et le poids du péché qu'ils sont en train de commettre. » Voilà un homme qui est dans une épreuve horrible, mais il adore Dieu en esprit et en vérité. S'il avait abordé l'épreuve par la chair, il les aurait maudits, je pense. Ils auraient dit, c'est mécréant, ils sont en train de me lapider, je n'ai rien fait, je ne mérite rien. Que Dieu vous maudisse, peut-être, s'il avait abordé les choses par la chair. Mais c'était un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, adorateur en esprit et en vérité. Il dit au contraire, « Oh Dieu, ne leur impute pas ce péché. Ne leur fais pas porter le poids du péché qu'ils sont en train de commettre. » Et alors qu'il est en train de mourir atrocement de cette manière, il est en train de vaincre. Il est en train de vaincre ses adversaires. Il est là victorieux. Le monde qui lit ça dirait, mais il a été vaincu. Mais nous savons qu'il a été victorieux et qu'il est entré dans la gloire céleste et dans la gloire éternelle. Bien-aimé, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas l'issue d'une épreuve qui doit nous faire douter de ce que Dieu a dit. L'issue d'une épreuve ne traduit pas le fait que nous ayons perdu ou pas. Ce qui fait que nous sommes vainqueurs, c'est du moment où nous demeurons dans ce que Christ nous dit, dans la confiance que nous avons en Dieu et que notre attitude est conforme à celle de l'Esprit de Dieu. Nous sommes vainqueurs, quoi qu'il puisse se passer. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Pour tous ceux qui gardent la parole de Dieu, Jésus dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Du moment où Christ ouvre une porte devant chacun de ses enfants et que cet enfant garde la foi en Christ, nul ne pourra fermer cette porte. Les épreuves ne doivent pas nous faire douter de l'amour, de la grâce de Dieu et de la victoire qu'il a déjà accomplie pour nous. Et je termine enfin, Apocalypse 3, 11, 13. Jésus nous dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, qui peut vaincre ? Tous ceux qui ont Christ ont la possibilité de vaincre. Parce que Jésus a déjà vaincu le monde et il a vaincu celui qui est le prince du monde, c'est-à-dire le diable, a été vaincu. Les autorités, les puissances ténébreuses ont été dépouillées. Celui qui vaincra, c'est-à-dire tous les chrétiens qui demeurent en Christ jusqu'au bout, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dise aux églises. Amen.